Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique Économie, une émission durant laquelle nous passons en revue et en bref les actualités économiques les plus importantes du continent africain. Je vous souhaite une bonne émission et restez avec nous. Le Ghana vise un allègement du service de la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars entre 2023 et 2026, selon le FMI. Aux prises avec une grave crise économique, Accra avait suspendu en décembre 2022 le remboursement de la majeure partie de sa dette extérieure en attendant des accords avec l'ensemble des créanciers sur sa restructuration. Le Ghana vise un allègement du service de la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars durant la période 2023-2026, a annoncé le Fonds monétaire international dans une nouvelle analyse de la viabilité de la dette du pays publiée jeudi 18 mai. Par ailleurs, l'institution a précisé que la dette de ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait passer d'un niveau insoutenable actuellement à un niveau correspondant à un risque modéré d'endettement en 2028. L'objectif du gouvernement ghanéen est de réduire le ratio de la dette publique produit intérieur brut de 88,1% à fin 2022 à 55% en 2028 et le ratio du service des prêts extérieurs par rapport aux recettes publiques à 18% a-t-on ajouté de même source. Le FMI avait annoncé mercredi 17 mai que son conseil d'administration a approuvé un programme d'aide de 3 milliards de dollars en faveur du Ghana avec un premier décaissement immédiat d'environ 600 millions de dollars, indiquant que ce plan de sauvetage vise à accompagner des réformes portant sur le rétablissement de la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. La Banque mondiale s'est de son côté engagée à décaisser 1,6 milliard de dollars en faveur du Ghana à titre d'appui budgétaire et de soutien à la balance des paiements. Accra avait suspendu en décembre dernier le remboursement de la majeure partie de sa dette extérieure qui siphonnait environ 70% des recettes publiques. Selon une feuille de route sur les énergies renouvelables au Nigeria de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la capacité hydroélectrique du pays pourrait atteindre 15,5 gigawatts d'ici 2050. Le président nigérian Muhammadu Buhari a inauguré le 18 mai une centrale hydroélectrique de 40 MW, un poste de commutation de 132 kW associé, une ligne de transmission et une sous-station de distribution du barrage polyvalent de Kashimbila situé dans l'état de Taraba. L'achèvement et la mise en œuvre de ces projets s'alignent, selon Buhari, sur les politiques de son gouvernement visant à réduire la pauvreté, à créer des opportunités d'emploi et à améliorer le niveau de vie des Nigérians. Bien que le barrage ait été conçu pour servir de tampon afin de contenir un éventuel déversement d'eau du lac Nyos, la conception technique a maximisé les avantages de l'écosystème de Kashimbila en incorporant une centrale hydroélectrique de 40 MW. Également, un système d'approvisionnement en eau de 60 000 m3 par jour et un système d'irrigation de 2 000 hectares ont été conçus, a-t-il déclaré. Le président sortant a également souligné l'importance du projet et son rôle dans l'engagement de son administration à atteindre l'objectif de 30 gigawatts de capacité de production d'électricité d'ici 2030 au Nigeria. Au cours des 12 derniers mois, des pays africains tels que le Kenya, le Zimbabwe, l'Égypte, l'Ouganda et l'Angola ont lancé des satellites dans l'espace. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire et la Tanzanie se préparent. Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, a révélé que le pays envisage de construire son propre satellite. Dans un avenir proche, a rapporté des Citizen. Les détails tels que le type du satellite ou l'équipe d'ingénierie n'ont pas été dévoilés toutefois. Les négociations pour concrétiser cette ambition sont déjà en cours, apprend-on. Cette annonce de la Tanzanie intervient alors que les gouvernements des pays africains affichent un intérêt croissant pour les programmes spatiaux et multiplient les investissements dans le secteur. L'édition 2022 du rapport annuel de l'industrie spatiale africaine réalisé par Space in Africa, la valeur de cette industrie devrait atteindre 22,64 milliards de dollars en 2026 alors qu'elle était évaluée à 19,49 dollars en 2021. Le même rapport indique que les nations africaines ont alloué un total de 534,9 millions de dollars aux programmes spatiaux en 2022 contre 523,2 millions de dollars en 2021. En avril dernier, le gouvernement ivoirien a dévoilé que le premier satellite du pays devrait être lancé d'ici août 2024. Quelques jours plus tôt, le Kenya a mis en orbite son premier satellite dénommé Taifa 1 au cours des 12 derniers mois. En outre, la Russie négocie avec certains pays africains comme l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour les aider à construire et lancer des satellites dans l'espace. Rappelons que cette recrudescence des investissements dans le secteur spatial africain intervient dans un contexte de transformation numérique accélérée. La technologie spatiale pourrait être utilisée pour améliorer la couverture des services télécoms et Internet haut débit, notamment dans les zones rurales ou reculées difficiles d'accès pour les opérateurs de téléphonie mobile, selon les dernières statistiques de la Tanzania Communication Regulatory Authority. Le pays compte 61,9 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et 33,1 millions d'internautes. Selon la BAD, l'Afrique ne captera que 55 milliards de dollars de gains sur un marché des batteries et véhicules électriques estimé à 8 800 milliards de dollars d'ici 2025. En cause, son rôle exportateur de minerais bruts quand des hubs de transformation se développent en Chine, aux États-Unis ou en Australie. En Australie, le gouvernement fédéral a annoncé le 18 mai l'octroi de subventions en faveur de plusieurs sociétés actives sur des métaux critiques, dont un financement de 2,9 millions de dollars australiens pour Ecograph. Cette subvention devrait couvrir près de 50% des coûts de construction d'une installation test pour la future usine de transformation de graphite extrait à Eponco en anode de batterie pour véhicules électriques. Pour Ecograph, ce financement marque une étape supplémentaire dans sa stratégie visant à devenir un fournisseur direct du marché des batteries et des véhicules électriques, dont la taille devrait atteindre 8 800 milliards de dollars d'ici 2025. La nouvelle installation devrait en effet entrer en service l'année prochaine, permettant à la compagnie de sceller des accords d'achat pour sa future production. Cela devrait favoriser in fine le lancement rapide de la construction de la mine d'Eponco en Tanzanie dans le but d'alimenter la future usine australienne. En Afrique, la pomme de terre est le principal tubercule cultivé. Alors que le pays est autosuffisant dans la denrée depuis plusieurs années, les importations déloyales en provenance de l'extérieur pourraient nuire à l'industrie locale. En Afrique du Sud, la Commission de l'administration du commerce international a décidé le 17 mai de rétablir avec effet immédiat les droits anti-dumping sur les chips de pommes de terre congelées importées depuis la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne 4 mois après leur expiration en janvier dernier. En dehors de l'Allemagne, dont la taxe restera inchangée à 181,05%, la Belgique et les Pays-Bas verront respectivement leurs marchandises taxées à hauteur de 67,33% et 239,10% contre des taxes de 23,06% et 104,52% qui leur ont été appliquées précédemment sur une période de 6 mois. Selon les informations relayées par le quotidien local Engineering News, cette décision intervient à la suite d'une enquête anti-dumping ouverte par l'organisme en novembre 2021. Ces investigations ont abouti à la conclusion selon laquelle la nation arc-en-ciel est depuis longtemps une destination privilégiée pour le dumping de produits transformés à base de pommes de terre congelées. En réalité, l'arrivée sur le marché de chips congelés de mauvaise qualité ou bon marché pourrait nuire aux producteurs sud-africains et à l'ensemble du secteur. Pour rappel, l'Afrique du Sud est l'un des rares pays africains à disposer d'un approvisionnement local en pommes de terre fraîches tout au long de l'année. Le secteur emploie entre 50 000 et 60 000 salariés temporaires et permanents.